Ce matin, il y a un chapitre dans toutes les Écritures que si vous enlevez, tout le reste tombe. Il vous est très difficile d'avoir la certitude que vous pouvez entrer au ciel si vous enlevez ce chapitre-là. Et c'est le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. On va aller dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean ce matin. C'est un des passages les plus connus du Nouveau Testament. C'est une rencontre personnelle que Jésus a avec un homme qui s'appelle Nicodème. Et c'était quelqu'un faisant partie des hommes les plus puissants et les plus influents de tout Israël à cette époque. C'était un homme religieux, c'était un homme puissant, c'était un homme riche. Pourtant, c'était un homme qui avait une démangeaison que ni lui, ni son argent, ni sa puissance ne pouvaient faire disparaître. Et on va regarder ça ce matin. Et c'est l'occasion aussi pour nous, eh bien, d'être interpellés par le Saint-Esprit, Dieu voulant, si c'est vraiment votre position ce matin. Voilà, on va regarder dans ce chapitre ce que Jésus va dire à Nicodème et comment Nicodème va réagir. Et avant de commencer, on va prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur. L'apôtre Paul nous dit que l'Évangile, Seigneur, montre à l'homme comment tu les rends justes. Montre aux hommes comment tu les rends justes devant toi, et c'est par la foi. Et Seigneur, ce matin, par la foi, nous nous approchons de ton trône de grâce, Seigneur, pour que tu puisses parler à chacun de nos cœurs. Seigneur, tu vois les hommes et les femmes qui sont dans ce lieu ce matin. Tu connais leurs besoins bien particuliers, Seigneur. Tu connais aussi ceux qui ont besoin de délivrance dans un domaine quelconque de leur vie. Seigneur, je te demande de leur accorder cette délivrance. Et pour ceux, Seigneur, qui ont faim et soif de toi, je te demande de les nourrir avec abondance ce matin. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te demande de les sauver. Bénis ta sainte parole, Seigneur, que l'homme qui est en avant ici ce matin s'efface et que ce soit toi qui y prenne toute la place afin que tu puisses agir avec puissance dans chacune de nos vies. Et c'est au beau nom de Jésus que je te prie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors, en parlant avec lui, Jésus dit de Nicodème qu'il est un maître en Israël. Il lui dit, c'est un enseignant. Ce qui démontre que Nicodème était un homme cultivé. Et pourtant, malgré sa connaissance, il y avait certaines choses que Nicodème ignorait. Alors une nuit, cet homme riche, puissant et bien cultivé se retrouve seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, ce que Nicodème va apprendre cette nuit-là se révélera être la plus grande leçon de toute sa vie. Je vais la lire en français courant. On va lire les 15 premiers versets rapidement. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était un chef des Juifs. Il vint une nuit auprès de Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire des miracles, comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Je te déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas rentrer et retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. » Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'Esprit Saint. Ce qui naît d'un père humain est humain. Ce qui naît de l'Esprit est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui naît de l'Esprit Saint. Alors Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Nicodème, tu es un maître réputé en Israël, et tu ne sais pas ces choses. Je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons, et nous disons ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses qui arrivent sur la terre. Comment donc seriez-vous en mesure de me croire? Si je vous parle des choses qui arrivent dans le ciel, personne n'est jamais monté au ciel excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous dites « Amen » à cette parole ce matin. Amen. J'aimerais regarder avec vous ce matin les grandes vérités, trois ou quatre grandes vérités que Jésus a partagées avec cet homme. Car voyez-vous, Nicodème est venu voir Jésus pour obtenir des réponses, pour obtenir en tout cas certaines réponses sur la religion qui est sur ce qu'il a reçu, et ce qu'il a reçu va lui sauver la vie. Et peut-être que ce matin, vous vous posez les mêmes questions. Peut-être que dans votre cœur, ce matin, vous n'avez pas la certitude que si Dieu reprenait votre vie aujourd'hui, vous n'avez pas la certitude qu'il vous ouvrirait les portes du paradis. C'est important d'avoir cette certitude parce que avoir la certitude qu'on est sauvé, avoir la certitude qu'on est né de nouveau, avoir la certitude que nos péchés sont pardonnés, avoir la certitude qu'on a la vie éternelle, avoir la certitude qu'au jugement dernier, Dieu nous ramènera de la mort à la vie, ça change complètement la façon de fonctionner d'un chrétien. Souvent, les chrétiens ont beaucoup de difficultés à obtenir la victoire dans leur vie parce qu'ils vivent dans le doute de savoir si Dieu les aime comme il aime autant les autres, dans le doute de savoir si Dieu leur a vraiment pardonné tous leurs péchés, dans le doute de ci, dans le doute de ça. Et c'est important que la question de la foi, c'est une assurance, c'est une certitude des choses qu'on espère. Chapitre 11, verset 1 de l'Épître aux Hébreux. Avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on ne voit pas, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas, pardon. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble ce matin. Et Nicodème, il est venu voir Jésus en lui posant des questions sur lui-même, et il est reparti en ayant reçu plus de connaissances sur Jésus et sur lui-même qu'il ne l'avait imaginé. Et ce matin, on peut faire la même démarche que Nicodème. Vous êtes assis dans la salle ce matin, eh bien, vous vous posez, vous regardez à la croix, vous fixez la croix, et les questions que vous posez, vous les posez au Seigneur Jésus-Christ. Et je suis persuadé qu'à travers le message, le Saint-Esprit va répondre à toutes vos réponses ce matin. Est-ce que vous croyez en cela ce matin? Amen. Oh, yoyoy, les riches. Les pauvres. Ben, je tiens à vous rappeler ce matin et vous consoler que Dieu aime autant les riches que les pauvres et qu'il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu que les pauvres. Voilà. Voilà. Bon, ça concerne une blague de la semaine passée. Hein, voilà. On va arrêter. Pour pas complexer personne. Voilà. Premièrement, les versets 1 à 7. L'obligation de naître de nouveau. L'obligation de naître de nouveau. L'expression « nouvelle naissance » fait partie du vocabulaire d'un grand nombre d'Américains qui affirment être nés de nouveau. Un point tel que 70% des Américains affirment être nés de nouveau. Depuis le président Jimmy Carter, qui pendant sa campagne présidentielle a affirmé être né de nouveau, tous les présidents américains qui ont suivi par la suite ont affirmé avoir vécu une expérience spirituelle dans leur vie, en disant qu'ils étaient nés de nouveau. Et j'espère que c'était le cas pour chacun d'eux, j'espère. Mais la nouvelle naissance ne se limite pas à être une simple expression sortant de la bouche de quelqu'un. Et ce n'est pas une expression qui est nouvelle. Dans sa première épître, l'apôtre Paul en parle de la nouvelle naissance. Jacques, dans son épître, parle de la nouvelle naissance, tout comme l'apôtre Jean dans sa première épître. Que signifie donc l'expression « né de nouveau » Cette expression signifie littéralement, en grec, « naître d'en haut ». Jésus dit « ce qui est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Je suis venu au monde d'une mère, le Père a déposé sa semence dans l'ovule et finalement, il en est sorti un être vivant. Voilà, c'est moi. Moi, je suis né d'un père humain, d'une mère humaine. Mais j'ai besoin, pour avoir l'assurance d'entrer dans le ciel qui se trouve là-en haut, de naître d'en haut. Et cette naissance qui vient d'en haut, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui doit déposer sa semence en moi pour que je puisse naître de nouveau. Alors, il y a deux choses. Tout comme l'être humain, ça prend la semence d'un homme et l'ovule de la femme. Ça prend deux choses aussi pour naître de nouveau. Ça prend la semence, l'Évangile, et ça prend le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement et de permettre qu'on puisse naître de nouveau. Les deux, on va voir que les deux sont pratiquement identiques dans la procédure pour arriver à une nouvelle naissance. C'est vraiment, vraiment important. C'est pas juste de lever la main et de faire une prière que j'accepte le Seigneur Jésus qui fait de nous qu'on est né de nouveau. Je pourrais sortir un pistolet ici ce matin, braquer sur vous, et dire, qui veut accepter Jésus? Celui qui n'accepte pas Jésus, je le tire. Qui veut lever sa main? À peu près tout le monde lèverait sa main. Ça ne veut pas dire que vous seriez né de nouveau. Ça doit d'abord se passer dans la tête. L'Évangile, première chose, première semence. Ça doit se passer ici. Je dois comprendre le message. Et deuxièmement, le Saint-Esprit qui vient toucher mon cœur. Il faut que les deux. Dans les milieux charismatiques, sans nommer personne, sans juger personne, hein. Bon. Moi, je viens des milieux charismatiques, donc passé la première année dans un milieu charismatique. C'est souvent le cœur qui est touché. Et souvent, les indices qui nous permettent de voir si la personne, elle est née de nouveau, c'est est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce qu'elle est tombée? Ça n'a rien à voir, hein? Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que ça n'a pas rentré ici, hein? Ils ont été touchés. C'est vrai que c'est touchant. Il y a des messages qui nous bouleversent, qui nous amènent à pleurer. Mais le fait de pleurer n'est pas un signe de nouvelle naissance. Dans les milieux, disons, plus traditionnels, on met de côté, on réagit violemment face aux émotions et on met de côté l'histoire de pleurer. Tout se passe dans la tête. Mais ça fait des gens qui sont très connaissants, mais pas des gens nécessairement qui sont nés de nouveau. Nicodème était un homme très, très connaissant, très religieux, mais il n'était pas né de nouveau. C'était le maître en Israël, dit Jésus. C'était le docteur. Et il n'était pas né de nouveau. Alors, il faut que les deux, je peux comprendre le message. Maintenant, je dois accepter que le Saint-Esprit vienne faire le miracle dans mon cœur, vienne opérer, faire une opération qui va me faire passer de la mort à la vie. Et ça complète la semence, la semence de la parole, plus finalement la puissance du Saint-Esprit. Les deux mis ensemble font en sorte que je suis passé de la mort à la vie, que je suis né de nouveau et je ne serai plus jamais, jamais la même personne. Si la religion que vous pratiquez n'a pas changé votre vie, changez de religion pour être en mesure de changer de vie. Parce que votre religion ne vous conduira nulle part autre qu'en enfer. Et Jésus ici va parler à Nicodème, et dans les versets 1 à 7, il va expliquer à Nicodème l'obligation de naître de nouveau. L'expression « né d'en haut » ou « né de nouveau » fait ressortir l'idée d'obtenir le privilège de prendre un nouveau départ, de recevoir une nouvelle vie qui vient du ciel. Nous appelons cette expérience, encore une fois, être né d'en haut, être né de nouveau. Et dans Tite 3:5, Paul dit ceci. Dieu, notre Sauveur, nous a sauvés non pas parce que nous aurions accompli des œuvres justes, des bonnes œuvres, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain au travers duquel le Saint-Esprit nous accorde la nouvelle naissance et la nouvelle vie, ou, dans la Louis II, c'est marqué par « il nous accorde la nouvelle naissance par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit ». C'est plus compliqué à comprendre, hein? Mais ici, en français courant, il est écrit « il nous a sauvés » par le bain au travers duquel le Saint-Esprit nous accorde la nouvelle naissance et la vie nouvelle. Voilà, ça c'est important. Il y a tellement de gens qui confondent le mot régénéré et réformé. Le mot réformé signifie tourner la page et commencer une nouvelle page dans ma vie. Mais ce que les gens ont besoin, ce n'est pas d'être réformé, c'est d'être régénéré. Être régénéré. La doctrine de la régénération, frères et sœurs. Car voyez-vous, quelqu'un qui a été réformé, c'est quelqu'un qui est de retour à une vie plus sage, tandis que quelqu'un qui a été régénéré, c'est quelqu'un qui a reçu une nouvelle vie qui lui permet de vivre une vie juste comme Dieu lui demande. Il est impossible de faire plaisir à Dieu, de marcher comme Dieu lui demande, si on n'est pas passé de la mort à la vie, si on n'est pas né de nouveau. Et pour se consoler, Nicodème, il devait faire des choses extraordinaires, ce gars-là. Mais ça devait être incroyable, c'était un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et dans l'Église, il y a des gens qui sont au-dessus de tout soupçon. Ce sont de bonnes personnes qui s'en vont directement en enfer. Parce qu'ils sont pas nés de nouveau. Ce sont des bonnes personnes à qui vous n'avez rien à reprocher. Mais dont les péchés n'ont pas été effacés. Dont ils n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés. Pourquoi on a des gens dans nos églises qui sont hyper religieux? Je parle pas dans la nôtre, hein. Dans nos églises. Parce que la doctrine de la nouvelle naissance n'est pas prêchée et ça commence là, la vie chrétienne. Ça commence là. John Wesley, quand il a reçu son diplôme, il a prêché devant 1000 évêques et cardinaux protestants en Angleterre. Il a prêché sur le salut par la foi. Les gens ont dit que ça faisait 150 ans que ce message n'avait pas été prêché. On lui a fermé toutes les églises. Incroyable, hein? Si vous prêchez une doctrine qui amène les gens à la repentance et au salut, vous allez être persécutés. Le diable déteste cet enseignement. Ce matin, moi, je pourrais vous prêcher, « Ah, que vous avez de l'air beau. Ah, que vous sentez propre. Ah, que Dieu vous aime. Embrassez-vous tout le monde. Dieu vous aime. Peu importe ce que vous faites, Dieu est amour, il pardonne tout. C'est un vieux qui a pris de l'âge, il voit pas tout. Et moi, je sais une chose, je suis pas capable de prêcher ça. Parce que je vais avoir doublement rendre compte de l'enseignement que je vous donne ce matin. Moi, je vais vous faire une confidence. Hein. Ce message-là, ce matin, je voulais pas le prêcher. J'avais un message de tout prière à 7h30, 19h30. Et à 10h30, le Saint-Esprit m'a dit, tu mets ça de côté, puis tu vas prêcher sur la nouvelle naissance. Ben, ça vous donne une idée qu'à l'heure, je me suis couché, quoi. Pourquoi? Parce que je résistais au Saint-Esprit. Ça m'était venu tout, pendant toute la semaine, ça. Parle de la nouvelle naissance. Parle de la nouvelle naissance, Jean. Et c'est une doctrine importante parce que c'est le point de départ de toute vie chrétienne en Jésus-Christ. Lorsque vous avez été réformé, on a mis des nouveaux vêtements sur vous, tandis que lorsque vous avez été régénéré, on a mis un nouvel homme dans vos vêtements. Ce que les gens ont besoin, ce que vous avez besoin, et ce que j'ai besoin, c'est d'être régénéré. Car si vous êtes né une seule fois, vous allez mourir deux fois. Mais si vous êtes né deux fois, vous ne mourrez qu'une seule fois, parce que la mort n'a plus d'emprise sur vous. Celui qui vient au monde, qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, il est né une fois. Quand il va comparaître devant Dieu au jugement dernier, il va mourir une deuxième fois. Celui qui vient au monde ici, qui est né une fois, qui passe par la nouvelle naissance et naît une deuxième fois, il ne mourra plus jamais. Est-ce que vous êtes né une seule fois depuis que vous êtes sur la terre ou si vous êtes né deux fois? C'est une question que vous pouvez vous poser ce matin. Est-ce que vous êtes né d'un père humain et d'une mère humaine? Et est-ce que vous êtes né par la puissance du Saint-Esprit? Ça, c'est les deux naissances qui vont vous empêcher de mourir pour l'éternité. Et si vous êtes mort une seule fois, la Bible est claire, c'est pas mon message, c'est le message de la parole. Vous allez mourir pour l'éternité, c'est-à-dire privé de la présence de Dieu, privé de toutes les promesses que Dieu donne dans sa parole. Jean 11, 25, 26, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit en croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marc? » lui dit. Est-ce que tu crois cela? Elle lui dit, oui, je sais que tu es celui qui doit venir. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 4. Aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons, dit Paul, être revêtus du corps céleste afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Permettez-moi maintenant de partager avec vous pourquoi nous devons naître de nouveau. Laissez-moi vous démontrer pourquoi il est nécessaire de naître de nouveau si vous voulez entrer au ciel. À cause de la tendance naturelle de l'homme à pécher. Les théologiens pensent que Nicodème est allé voir Jésus de nuit parce qu'il avait honte d'être vu avec lui en plein jour ou encore parce qu'il avait peur d'être persécuté en étant associé avec ses disciples. Moi, je pense plutôt qu'il est venu voir de Jésus de nuit parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Et au lieu de compter les moutons, eh bien, il a plutôt décidé d'aller voir le berger qui s'occupe des moutons. Vous remarquerez que lorsque cet homme est venu voir Jésus, il est venu le voir avec un esprit d'humilité en employant des termes très élogieux à l'égard de Jésus. Il l'a abordé en lui posant des questions extrêmement importantes. Mais j'ose dire qu'il ne s'attendait pas à recevoir la réponse qu'il a reçue. Jésus va lui dire au verset 3, pour ceux qui ont leur Bible, « Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Puis au verset 7, il lui dit, « Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. » Hey, frères et sœurs, on est tous des bonnes personnes ici en apparence. Mais je vais vous parler d'un pourri, moi, ce matin. Un pourri qui a eu l'assurance qu'il rentrait dans le royaume de Dieu, c'est le malfaiteur sur la croix. Quelle œuvre a-t-il fait pour pouvoir entrer au paradis? Aucune! Aucune! Il n'a pas perdu sa vie à essayer de gagner son salut. C'était un pourri, un meurtrier. Aucune! Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pas sur la base de ce que tu as fait, mon ami, parce que sur la base de ce que tu as fait, tu mérites que l'enfer. Mais sur la base de ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lui, Il n'a rien fait de mal, mais nous, nous méritons le châtiment que nous subissons par lui. Il n'a rien fait de mal. Hey, Seigneur, voilà! Lui, le juste, est mort pour des injustes. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il reprend son partenaire. Chut, tais-toi! Si tu veux mourir dans tes péchés, c'est ton problème. Mais moi, en regardant le témoignage de cet homme, à partir de Ponce Pilate et tout ce qu'il a vécu après, il n'a point ouvert la bouche devant ses accusateurs. Il s'est rendu jusqu'à la croix. Cet homme est celui qui devait venir. Et il dit à Jésus, « Aie pitié de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume. » Il croyait, et le malfaiteur, il n'a pas fréquenté l'Église toute sa vie, hein? Il croyait que Jésus pardonnait les péchés. Il croyait en les résurrections des morts, puisqu'il dit, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a des chrétiens qui fréquentent l'Église depuis 30 et 40 ans et qui ne comprennent pas encore cette doctrine, parce qu'ils veulent faire des œuvres pour être bien vus des hommes et non pas vus de Dieu. Dieu n'en a rien à cirer de ce qu'on fait pour que les hommes puissent nous respecter et nous apprécier. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on accepte l'œuvre que Jésus accomplit à la croix. Et frères et sœurs, c'est pas par hasard qu'on tombe sur Nicodème ce matin. Il est fort probable que Nicodème ait pu penser que Jésus avait commis une erreur à son égard. Après tout, si vous preniez le temps d'examiner cet homme, il avait tout pour lui. Vous n'auriez jamais osé penser qu'il avait besoin de naître de nouveau. Surtout pas Nicodème. Il est possible que cet homme qui passe son temps à cuver son vin a besoin d'être sauvé et naître de nouveau. Il est possible que telle personne possédant un caractère de chien a besoin d'être sauvé. On dit ça, c'est un caractère de chien, c'est pas vulgaire, non? OK. Il est possible que les gens qui passent leur vie au café ont besoin de naître de nouveau. Mais pas quelqu'un comme Nicodème, frères et sœurs. Pas lui. Il avait sûrement pas besoin de naître de nouveau. Nicodème était vraiment une bonne personne, quelqu'un à qui on n'avait rien à reprocher, un citoyen au-dessus de tout soupçon. Non, il avait vraiment tout pour lui. On aurait pu lui donner le bon Dieu sans confession. Premièrement, c'était un homme riche. La tradition nous dit que Nicodème était un des trois hommes les plus riches de Jérusalem. Il avait tellement d'argent qu'il ne savait pas quoi en faire. Cependant, il faut dire que ce que nous avons ne change pas ce que nous sommes. Vous pouvez posséder beaucoup d'argent, mais cela ne change pas le fait que vous demeurez toujours un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Votre argent peut vous permettre d'acheter beaucoup de choses dans ce monde, mais elle ne peut pas vous permettre d'acheter quoi que ce soit qui vient du ciel. Deuxièmement, non seulement Nicodème était un homme riche, mais c'était un homme respectable. Lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, les gens qui savaient qui il était le montraient du doigt à leurs enfants. Regarde, voilà l'exemple à suivre. Regarde ce monsieur. Regarde, ça c'est l'exemple que tu dois suivre. Pas ton père, cet homme. Il était fort estimé par tous ceux qui le connaissaient, qui le fréquentaient. C'était quand même, je le répète, un maître réputé en Israël, verset 10. Pourtant, ce que nous réalisons dans la vie ne change pas ce que nous sommes. Il est vrai qu'il vaut mieux être respecté et avoir une bonne réputation, mais cela, frères et sœurs, ne vous réservera pas pour autant le ciel. Troisièmement, non seulement Nicodème était un homme riche, non seulement il était un homme respectable, mais Nicodème était un homme religieux. C'était un pharisien qui observait la loi. Il était moralement sans reproche, et ça à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Et même Jésus a reconnu les efforts de cet homme, de ces hommes, lorsqu'il a dit à la foule, dans Matthieu chapitre 5, verset 20, « Si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous demande mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. » C'est incroyable, ça, quand vous pensez à ça. « Je ne serais pas capable d'obéir autant que les maîtres de la loi et les pharisiens obéissaient à la loi de Dieu. » Et Jésus dit, « Si vous ne dépassez pas ça, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Le religieux dans l'Église, il fait des œuvres selon les apparences. Celui qui est né de nouveau, il fait des œuvres pour plaire à Dieu. ce que les gens pensent de lui, il n'y en a rien à cirer. Ce qui compte le plus et ce qui est fondamental pour lui, c'est ce que Dieu pense de lui. Parce qu'il sait qu'à la fin des temps, c'est devant Dieu qu'il va comparaître et non pas devant les hommes. Il payait sa dîme. Il accomplissait tout ce que la loi lui disait de faire. Il observait la loi écrite et les traditions des anciens. Il évitait probablement de porter un regard sur une femme quand cela était possible. Et il ne serait jamais entré en contact avec un pécheur. C'était un saint homme. Encore une fois, ce que nous faisons ne change pas ce que nous sommes, frères et sœurs. Malgré les tentatives extérieures pour pratiquer ce qui était juste, Nicodème était quelqu'un de religieux qui avait besoin d'un sauveur. Il est bon de vivre une vie pure et sainte, mais cela ne sauvera jamais votre âme du jugement à venir. Vos activités religieuses ne changeront rien non plus. C'est ici que beaucoup de gens bien intentionnés sont confus. Ils pensent que s'ils peuvent être assez bons, faire suffisamment de bonnes choses dans leur vie, cela leur garantira le droit d'entrer au ciel, mais rien ne peut être aussi loin de la vérité. Le salut ne s'obtient qu'à travers la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que peu importe ce que vous possédez, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous êtes, vous demeurez toujours un pécheur. Rien de ce que vous avez, de ce que vous faites ou de ce que vous êtes ne peut changer ce que vous êtes, un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi la nouvelle naissance n'est pas une option et n'est pas quelque chose à prendre ou à laisser, mais quelque chose que nous devons tous expérimenter. Si vous voulez éviter d'aller en enfer, alors vous devez naître de nouveau, et cela à cause de notre nature humaine qui l'exige. Deuxièmement, au verset 3, Jésus dit que sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume de Dieu, qui correspond au paradis. Et c'est ce que Jésus a dit finalement aux malfaiteurs. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Un des grands privilèges de la nouvelle naissance, frères et sœurs, c'est le fait que nous recevons une nouvelle nature lorsque nous sommes sauvés. Ça, il y a des chrétiens qui, ça fait 30 ans qu'ils sont au Seigneur et qui n'ont jamais saisi encore cette vérité qui est capitale. Nous recevons une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, elle vient d'en haut. Nous recevons un esprit, le même esprit que Jésus avait quand il est venu sur la terre. C'est pas un deuxième esprit qui est différent, le même esprit. Le même. Nous devenons participants de la nature divine. Et là, je vais vous inviter à tourner. On a regardé ça jeudi à l'étude biblique. Mais j'aimerais simplement vous montrer les belles promesses qu'il y a concernant celui qui est né de nouveau. Frères et sœurs, imaginez la puissance de cette parole. Vous devenez des participants de la nature divine. Avez-vous réalisé ce que cela signifie? Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Verset 3 et suivant. On finira peut-être pas tout le message ce matin, mais en tout cas, on le fera en deux parties s'il faut, mais je pense que c'est important. 2 Pierre 1, verset 3. La lire encore en français courant. La divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Tout ce qui est nécessaire. Pas il en manque un peu, pas on a reçu quelque peu. Tout ce qui est nécessaire pour vivre comme Dieu nous le demande. Tout. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté, il parle de Jésus. C'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et de très grandes promesses, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Frères et sœurs, le monde nous tente par toutes sortes de choses, la vue, les oreilles et la bouche. Et le Seigneur nous a donné une nature qui est en mesure de résister à toutes ces formes de tentations. Regardez, pour cette raison même, faites tous vos efforts. Frères et sœurs, si on n'est pas capable, on n'a pas la capacité en Jésus-Christ de faire tous nos efforts pour vaincre ça, ben Pierre, c'est un menteur, quoi. Ou Pierre, il ne sait pas ce qu'il parle, de ce qu'il parle. Regardez ce qu'il dit ici. Pour cette raison même, pour l'espérance qui est en vous, parce que vous êtes participants de la nature divine, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et votre bonne conduite, la connaissance. Frères et sœurs, c'est progressif. toutes ces choses ici, il vous dit exactement comment faire pour arriver à vivre dans la sanctification, dans une vie sanctifiée comme Dieu le demande. Vous ne pouvez pas en apprendre un et l'amener avant l'autre, c'est impossible. Regardez ce qu'il dit. Votre bonne conduite. Frères et sœurs, je pense qu'un des signes, en tout cas, que Dieu nous a transformés, c'est qu'on laisse tomber les mauvaises choses qu'on faisait avant, puis on commence à entrer dans les choses que Dieu nous demande de pratiquer. Alors, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi à la bonne conduite et à votre bonne conduite la connaissance. Donc, ajouter à votre foi, c'est que vous avez reçu le salut par la foi. Maintenant, on va marcher par la foi. Et regardez, efforcez-vous aussi d'ajouter à la connaissance. Frères et sœurs, ajoutez à la connaissance. Ajoutez à la connaissance. Vous la trouvez où, votre connaissance? Je connais des chrétiens qui ça fait 30 ans qu'ils sont au Seigneur. On leur demande d'aller dans 1 Corinthiens. Ils vont dans l'Ancien Testament. Le problème, pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont continuellement déprimés, qui savent pas où ils s'en vont, qui remettent constamment en doute leur salut, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ incarné. Notre problème, c'est pas ce que le pasteur prêche. C'est pas comment vit notre Église. Notre problème, c'est que le peuple de Dieu a un manque de connaissance incroyable. Voilà pourquoi ils tombent. Voilà pourquoi il y a des gens du monde, des gens de l'Église qui vivent comme des gens du monde. Ils sont incapables de résister à toute tentation par manque de connaissance. C'est pas moi qui le dis, Faites ajouter à la connaissance la maîtrise de soi. Oui, parce que quand Dieu vous dit, écoute, tu peux pas faire ça, t'es né de nouveau, c'est terminé cette vie-là, c'est ton ancienne vie qu'il faisait, ben qu'est-ce que tu fais? Tu développes la maîtrise de soi, qui est un fruit du Saint-Esprit. Si Dieu te dit, écoute, quand tu regardes la femme d'un autre puis tu désires coucher avec, tu as commis l'adultère, bien, à un moment donné, tu changes ton fusil d'épaule, avant que ça arrive, que tu regardes une femme, tu la trouves jolie. C'est pas péché de regarder, de trouver une femme jolie, C'est le reste que Jésus dit, Ouais. Tu la trouves jolie, tu dis, hop, j'arrête là. J'arrête là, parce que si je vais plus loin, je risque de mettre les deux pieds dans les plats. Je risque de développer des désirs qui sont pas ceux de Dieu, mais ceux de la chair. Et la chair, pour moi, c'est terminé. Jésus-Christ a remporté la victoire sur la chair. Et en étant né de nouveau, il me donne les capacités en lui de remporter la victoire sur la chair. Ça ne veut pas dire que la nature humaine n'est plus là. Ça veut dire que celui qui est à l'intérieur de moi est plus puissant que celui qui est à l'extérieur de moi. Et celui qui est à l'intérieur de moi, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Si je dis oui à péché, c'est parce que j'ai décidé en tant qu'enfant de Dieu volontairement de pécher. Amen. Ouais. Dans le monde, c'est différent. On peut trouver toutes sortes de raisons pour commettre le péché. C'est pas si grave. Dieu va me comprendre. Mais pas en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je sais qu'à chaque fois que je pêche, j'attriste le cœur de Dieu. Et qu'il y a un ombrage qui vient sur au-dessus de ma tête, un nuage qui vient au-dessus de ma tête, et ma communion, elle n'est plus ce qu'elle devrait être avec le Seigneur. Je peux crier pour avoir les bénédictions tant aussi longtemps que je ne reviens pas devant le trône de Dieu. Je ne demande pas pardon pour mon péché. Il n'y a rien à faire. Dieu ne deviendra pas le complice de mon péché. Dieu ne pourra pas me bénir. Amen. Ça, c'est vrai aussi. Lorsque vous êtes sauvés, vous recevez la nature de Dieu en vous. On va arrêter là pour ça ici. Vous recevez la nature de Dieu en vous, une nature qui vient du ciel. La nouvelle naissance vous prépare à vivre une vie dans un nouveau royaume. Et la seule façon pour vous d'avoir accès au ciel, c'est d'abord de recevoir le ciel en vous. D'ailleurs, si vous alliez au ciel avec une nature déchue, frères et sœurs, vous seriez malheureux. Le ciel serait devenu un véritable enfer pour vous. Vous ne profiteriez jamais de cet endroit à moins d'avoir été revêtu de nouvelle nature. Toute l'adoration, toute la louange, toute la gloire du ciel serait quelque chose qui vous offenserait si vous alliez au ciel tout en étant encore perdu. Ce serait contre votre propre nature de vous réjouir et de vous retrouver dans cet endroit. Voilà pourquoi nous avons besoin de naître de nouveau, parce que cela nous prépare à y entrer et à nous réjouir et à en profiter. Et à profiter de tout ce qui se trouve sur cette nouvelle terre. Frères et sœurs, à travers la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle nature et nous recevons une nouvelle vie. Nous sommes devenus des participants de la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Le Saint-Esprit habite en moi, le même Esprit qui habite en Jésus habite en moi. Jésus était 100% homme, il était 100% Dieu. Dans son 100% homme, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Il avait le Saint-Esprit qui habitait en lui. Et le Saint-Esprit habite dans ceux qui sont nés de nouveau. Et le Saint-Esprit donne la capacité à ceux qui sont nés de nouveau de ne pas pécher. Je ne suis pas en train de dire, et ne partez pas avec ça, je suis content que ça soit enregistré, je suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut plus jamais pécher. C'est pas ce que je dis, ça doit être l'exception. Ça doit être l'exception. Et encore une fois, le premier épître de Jean nous dit que quand nous péchons, eh bien, si nous confessons notre péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Amen. On n'a pas à se sentir coupable. En pensant que Dieu ne nous pardonnera pas, il y a des promesses dans la parole qui nous disent, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Frères et sœurs, cet enseignement sur la nouvelle naissance me fait penser que vous ne verrez jamais un oiseau nager sous l'eau dans une piscine. Pourquoi? Parce que c'est contre sa nature. Vous ne verrez jamais une vache danser dans un spectacle à Broadway. Pourquoi? Parce que c'est contre sa nature. Vous ne verrez jamais un cochon voler d'une branche à une autre. Pourquoi? Parce que c'est contre sa nature. Chers amis, vous ne verrez jamais un pécheur perdu dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est contre sa nature. Si vous voulez avoir le droit d'entrer au ciel, vous avez besoin d'une nouvelle nature et le seul moyen de recevoir cette nouvelle nature, c'est en naissant de nouveau. Pourquoi? Parce que votre première naissance vous a donné un corps mortel et une nature charnelle. Vous avez besoin de naître de nouveau. Vous avez besoin de recevoir une naissance qui vient d'en haut pour recevoir une nouvelle nature spirituelle. Ce qui naît d'un Père humain est humain, ce qui naît de l'Esprit-Saint est esprit, dit Jésus, verset 6. Voilà pourquoi Jésus dit, vous devez tous naître de nouveau. Ce n'est donc pas une option. Assurez-vous, frères et sœurs, ce matin, que vous êtes tous nés de nouveau. Pardon, parce que Jésus dit que c'est une obligation pour pouvoir entrer au ciel. La question, c'est pas de commencer à déshonorer les gens, à mettre des gens mal à l'aise en disant « lève ta main si tu n'es pas sûr d'être sauvé, si tu n'es pas sûr d'être né de nouveau », mais de vous permettre de laisser le Saint-Esprit vous visiter, de dire « écoute, depuis que moi j'ai entendu l'Évangile, en dehors des œuvres que je fais dans l'Église, qu'est-ce qui a changé dans mon cœur? Est-ce que le caractère de l'ancien Jacques, il est disparu? Est-ce que c'est le caractère de Jésus qui occupe la place et qui travaille pour qu'il vienne à ressembler à Jésus-Christ? Frères et sœurs, lorsqu'on est né de nouveau, on ne peut pas garder le même caractère. C'est impossible. Moi, quand quelqu'un me dit « fais attention à lui là, dans l'Église parce qu'il a tout un caractère », ben ça remet en doute, ça remet en question pour savoir s'il est né de nouveau. On peut dire « écoute, mais fais attention à lui parce qu'il a une forte personnalité ». Mais de pas dire qu'il y a un sale caractère, quoi. Le sale caractère, on l'a hérité du premier Adam. Le caractère qui ressemble à Dieu, c'est le caractère de Jésus-Christ qu'on reçoit uniquement quand on est passé de la mort à la vie, quand on est né de nouveau. Et ce caractère-là que vous recevez ne peut pas vous amener à commettre les mêmes choses que vous commettiez avant de connaître Jésus-Christ. C'est impossible! Versets 4 à 8, le mystère de la nouvelle naissance. On va passer très vite là-dessus. Hein. Lorsque Jésus dit à Nicodème qu'il doit naître de nouveau, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Ça l'a complètement déboussonné. Écoutez, un maître de la loi, un docteur de la loi, hein, il ne pouvait pas saisir comment ça pouvait arriver, ça. Il ne pouvait pas saisir comment ça pouvait se faire. Il s'imaginait entrer à nouveau dans le ventre de sa mère et devoir naître une seconde fois. Il voulait savoir comment il pouvait faire pour retourner dans le ventre de sa mère. Vous imaginez, hein? Moi, je regarde ma grandeur, ma grosseur. J'allais voir maman, elle disait, maman, je voudrais naître une seconde fois. Est-ce que tu peux me laisser entrer? Elle me dirait, Notre-Dame des Anges, mon fils. Hein? Comme ça, ça va, mais pas. Eh bien, écoutez, on est devant un gars, vous savez qui? C'est le maître de la... C'est un docteur de la loi. Le docteur! Le docteur en Israël! Je disais à Jésus, comment je peux faire? Je peux pas à mon âge, quoi. Je peux quand même pas retourner dans le ventre de ma mère et puis naître une seconde fois. Alors Jésus va lui dire ceci au verset 4. Je te déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'eau et de l'Esprit Saint. Jésus a pitié de cet homme-là. Hein? Il est en train de lui dire, il devait regarder Nicodème, il dit, pauvre Nicodème, quoi. Pensez que tu dois essayer de rentrer dans le ventre de ta mère pour naître de nouveau. Écoute, je vais te donner deux tuyaux. Tu vas naître d'eau. L'eau, c'est dans la Bible, c'est la parole. Hein? Ça fait référence à la parole, l'Évangile. Et tu dois naître de l'Esprit Saint. Et là, Nicodème, ouf! Et il veut savoir comment. Et Jésus lui parle. Et Jésus va comparer la nouvelle naissance à une naissance naturelle, versets 4 à 7 ici. La naissance physique, autant que la naissance spirituelle, la nouvelle naissance est un mystère. Même les médecins qui se spécialisent dans ce domaine reconnaissent que la naissance d'un être humain est un merveilleux mystère que personne ne peut vraiment expliquer. Lorsque Jésus dit « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et de l'Esprit Saint », il est en train de parler de la naissance physique et de la naissance spirituelle. Il est en train de dire que si un homme veut entrer au ciel, il doit passer par deux naissances. Il doit y avoir un jour où il est né dans le royaume des hommes, et il doit y avoir un jour où il est né dans le royaume de Dieu. Nous pouvons prendre quelques exemples rapidement à partir de la naissance physique pour illustrer la naissance spirituelle. La naissance physique fournit la vie. Les bébés qui viennent au monde, les bébés sont en vie parce qu'ils sont nés. De même, la nouvelle naissance spirituelle fournit à quelqu'un la vie spirituelle. 1 Jean chapitre 5, verset 11-12. « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Deuxièmement, la naissance physique, elle survient une seule fois. Physiquement parlant, vous ne pouvez pas naître une seconde fois. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Vous ne pouvez naître qu'une seule fois. Votre naissance spirituelle survient une seule fois dans votre vie. Elle ne peut pas être annulée et elle ne peut pas être répétée. Frères et sœurs, il faut arrêter d'utiliser l'expression quand un chrétien quitte l'Église, que c'est un chrétien rétrograde. C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il y a des gens qui ont quitté l'Église pendant 20 ans, qui ont baigné dans le péché, encore pire que les gens du monde, et ont continué à prier pour qu'ils reviennent au Seigneur. Non, pour qu'ils viennent au Seigneur, quoi. Je peux pas croire que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut coucher avec toutes les femmes qui tombent sous les bras, puis il dit qu'on continue à prier encore. C'est un chrétien rétrograde, faut prier pour lui. Non! Il a jamais rencontré Jésus-Christ. Il n'est jamais né de nouveau, donc on doit prier pour sa conversion. On doit prier pour sa conversion. Sinon, si on évalue qu'est-ce qu'un chrétien rétrograde, mais finalement, tout le monde dans l'Église risque d'être des chrétiens rétrogrades. Hein? Non, cette personne-là, est-ce qu'elle démontre des signes qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle démontre des signes qu'elle a reçu le caractère de Jésus-Christ, qu'elle le manifeste dans sa vie de tous les jours? Non. Alors écoutez, on se pose pas de questions, on prie pour son salut. Hein? Il y a des gens qui sont partis de l'Église pendant 20-25 ans, qui sont revenus, et puis qui ont réalisé, qui ont reconnu qu'elles n'étaient pas nées de nouveau et qui ont donné leur vie au Seigneur, qui vivaient une religion. C'est pas péché de confesser qu'on vit une religion. Hein. Au contraire, hein, c'est le début, si c'est le cas, c'est vraiment le début de la porte ouverte hein, vers la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que ça va nous demander de changer d'attitude et de changer de comportement. La naissance physique survient suite aux souffrances vécues par quelqu'un d'autre. Une mère souffre pour pouvoir donner la vie à quelqu'un dans ce monde. Bien, la naissance spirituelle, c'est la même chose. Jésus a souffert pour pouvoir nous permettre de naître de nouveau. La nouvelle naissance repose carrément sur la douleur et la souffrance d'un autre. La naissance physique donne à un enfant un nouveau départ. Il n'y a aucun bébé qui vient au monde avec un passé. Ils n'ont aucun passé, mais un avenir devant eux. Ainsi en est-il avec la nouvelle naissance. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous obtenez un nouveau départ dans la vie. Amen. Votre passé est effacé. Et un nouvel avenir sans tache s'ouvre devant vous. La nouvelle naissance est comme la naissance physique. L'ancien Jacques Hudon, il est mort il y a 34 ans. J'ai honte des péchés que j'ai commis. Mais ce Jacques Hudon, il a été crucifié à la croix avec Christ. Il est mort. Et j'ai la conviction dans mon cœur, parce que je suis né de nouveau, que jamais Dieu va me reprocher les épouvanteries que j'ai commises quand j'étais dans le monde. Parce que cet homme-là, il a été jugé à la croix, il a été condamné, il est mort. J'ai 33 ans de vie chrétienne. 33 ans. Avant, si quelqu'un jouait avec ma réputation, il recevait un bon coup de poing. On ne jouait pas avec ma réputation. Ma vieille nature n'acceptait pas. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur moi. Je prie même pour ceux qui me persécutent. Je prie même pour ceux qui salissent ma réputation. Parce que je me dis, ils doivent avoir de sérieux problèmes dans leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ pour ne pas être trouvé, pour ne pas se reconnaître coupable de sortir des méchancetés, de sortir des mensonges, des calomnies, des médisances. Ça ne m'atteint même pas. Je suis plutôt triste pour eux. C'est un signe de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vous amène, parce que vous avez le caractère de Christ, à réagir comme Christ a réagi. Il n'a point ouvert la bouche face à ses accusateurs. Je peux vous dire que ça dérange énormément de monde quand je reçois un mail accusateur de ne pas leur répondre. Ça les empêche de dormir. Mais moi, ça ne m'empêche pas de dormir parce que je n'ai rien à me reprocher. Et est-ce le seul à qui j'ai des comptes à rendre? C'est au Seigneur Jésus-Christ. En tant que pasteur, si je m'arrête à tout ça, eh bien, je passe au moins 6 mois à Notre-Dame des Anges et 6 mois avec vous, quoi. Et vous êtes appelé à imiter la personne de Jésus-Christ. Si vous êtes né de nouveau, Dieu vous donne la capacité en Jésus-Christ de pouvoir résister. Rapidement, Jésus compare la nouvelle naissance au vent, verset 8. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il est né en étant ici de tout homme qui est né de nouveau, qui est né de l'Esprit. Frères et sœurs, si vous me demandez comment je sais que je suis né de nouveau, ça s'est passé, je suis pas capable de vous dire, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est un miracle. Un miracle, ça s'explique pas. Je suis pas capable de vous le dire. Il y a des gens qui font une prière de repentance qui sont pas nés de nouveau. Il y a d'autres qui font une prière de repentance qui sont nés de nouveau. Je suis pas capable de vous dire comment je suis passé de la mort à la vie. Il s'est passé quelque chose en moi, un miracle dans ma vie. Et la personne que j'étais est morte. Et il y a une nouvelle personne qui a pris sa place. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est un mystère. Ça vient de Dieu. Bon, on a les démarches dans la parole. Mais ça vient de Dieu, de dire, attends un peu, quand j'ai entendu l'Évangile, c'est passé ici, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Et puis là, la conclusion, je suis pas capable de vous expliquer ça comme ça. Je sais une chose, j'étais dans une église de 700 personnes. 700 personnes, et le prédicateur, il balayait des yeux toute la salle. Et j'ai été convaincu que le prédicateur avait fixé ses yeux sur moi tout le long du message. Un peu comme Gaetano. La journée qu'il a été sauvé, il était convaincu que je l'avais fixé pendant tout le message. Je n'ai jamais regardé, hein. Et ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit, hein. C'est le Saint-Esprit qui est en train de préparer un miracle. Jésus dit à Nicodème que tout comme on peut sentir le vent souffler, mais qu'on ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais qu'on peut en voir les effets, il en est de même avec la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas voir Dieu faire son œuvre dans le cœur de quelqu'un, mais vous pouvez voir les effets du vent de l'Esprit dans sa vie. Lorsque vous voyez un ivrogne abandonner sa bouteille, vous savez que Dieu est à l'œuvre. Lorsque vous entendez un langage propre sortir de la bouche de quelqu'un qui s'en servait comme d'un égout, vous savez que Dieu est à l'œuvre. Lorsque vous voyez une femme qui se prostituait, abandonner sa misérable vie, vous savez que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Lorsque vous voyez un homme qui en a voulu à tout le monde durant toute sa vie, devenir un homme doux et aimant, cherchant à aimer comme Dieu le demande, vous savez que le vent de l'Esprit a soufflé dans son cœur. La nouvelle naissance demeure un mystère parce que nous ne voyons pas de quelle façon elle agit, mais on ne peut nier ses effets quand on voit Dieu agir avec puissance dans le cœur d'un être humain. Jésus dit, je peux te sauver ce matin, et lorsque c'est le cas, tu ne seras plus jamais la même personne. C'est ce que Dieu fait avec tous ceux qui viennent à lui. Il les transforme, il les change, et il change leur vie à tout jamais. Car dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un est passé par la nouvelle naissance, vous n'avez pas besoin d'essayer de déterrer tout ce qui a fait de mal dans sa vie. Les choses anciennes sont passées. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau demeure toujours une personne blessée par les mauvaises expériences qu'il a vécues dans le passé. Parce qu'il est toujours la même personne. C'est un miracle que seul Jésus peut accomplir. Aucun spécialiste peut nous apporter cela. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que les spécialistes ne nous font pas du bien. Je suis en train de vous dire, je suis en train de vous citer un verset biblique. Dès qu'une personne est en Christ, il est un être nouveau. Un être nouveau. Les choses anciennes, son ancienne vie est passée. Il a pris sur lui nos blessures. Les abus physiques, les abus sexuels, les abus moraux, il a pris sur lui toutes nos blessures. Arrêtons de les reprendre puis dire aux gens, écoute, non, mais tu t'en sortiras. Non, c'est terminé. Parce que la personne qui a vécu tout ça, elle est morte. Et qu'il y a une nouvelle personne qui commence une nouvelle vie, qui a été guérie, c'est ce que Isaïe dit. Il a pris sur lui nos blessures et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Amen! Les moyens pour naître de nouveau maintenant. Lorsque Nicodème entend ces choses, il est venu, il veut savoir comment cela est possible. Et Jésus va prendre quelques versets qui suivent pour lui expliquer comment la nouvelle naissance peut devenir une réalité dans sa vie. Bon, vous regarderez ça à la maison, on n'a pas vraiment le temps de tout terminer, mais le rôle du Sauveur, verset 13-14, il parle du rôle du Sauveur. Quel est mon rôle, moi, dans tout ça? C'est qu'écoute, c'est ce que j'ai accompli pour toi. Si je n'accomplis pas ça pour toi, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, tu es toujours perdu. Je suis venu du ciel, je suis descendu du ciel, j'ai quitté mon ciel de gloire, je suis descendu. Je me suis fait homme et je suis venu prendre sur moi toute ta vie de misère, tous tes abus, toutes tes blessures, toutes tes maladies. Ton péché, je l'ai pris sur moi. Ce que tu méritais comme punition pour toute ta vie de pécheur, c'est moi qui l'ai subi. Maintenant, je vais vous dire, si vous voulez que ça vous touche le message de la croix, je vais vous le dire différemment. Jésus n'est pas mort pour tous les péchés du monde. Jésus, il est mort pour tes péchés à toi, personnellement. Vous auriez été le seul pécheur sur la terre à avoir besoin du salut, Jésus serait venu. Voyez-vous toute l'importance que le salut représente pour Dieu? Voyez-vous jusqu'à quel point Dieu désire qu'on passe l'éternité dans sa présence, dans le paradis? C'est pas n'importe qui est mort sur la croix. C'est Dieu, le Créateur, qui s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ et qui nous prend sur lui votre péché et mon péché. Et si j'avais été le seul perdu, je sais que Jésus serait venu. Je sais que Jésus aurait accepté de porter mon péché. Même si j'ai passé une grande partie de ma vie à me moquer de lui, à baigner dans le péché, à me réjouir du mal que je faisais, Jésus serait quand même venu chercher et sauver celui qui était perdu. Amen. Et si vous êtes du nombre ce matin, vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, Dieu en Jésus-Christ veut vous sauver. Il veut vous faire passer de la mort à la vie. Vous pouvez être dans une église depuis que vous êtes venu au monde et pas nécessairement être né de nouveau. Vous pouvez simplement pratiquer une religion. Je ne dis pas ça pour vous condamner, pour vous culpabiliser, au contraire. Simplement pour que vous vous remettiez en question. Quelles sont les preuves de ma nouvelle naissance? C'est une question que vous pouvez vous poser ce matin. Sur quoi je me base, moi, pour dire que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai le même caractère aujourd'hui que j'ai hérité de mes parents humains? Ou si j'ai reçu un nouveau caractère? Est-ce que j'ai pensé qu'en me faisant baptiser, j'étais sauvé? Mais le baptême ne sauve pas. Le rôle du pécheur, regardez, verset 14, le rôle de Jésus, le rôle du pécheur, verset 15. Il dit, tu n'as rien d'autre à faire que de regarder à la croix. Regarde cette croix et remercie, rends grâce à Dieu qu'il a voulu bien prendre ta place sur cette croix. Rends grâce à Dieu, ça veut dire, écoute, reconnais que tu es pécheur, reconnais que tu es perdu sans Jésus-Christ. Reconnais qu'il y a une transaction qui se passe à la croix. Il prend sur lui tes péchés et en retour, il t'accorde son pardon il t'accorde sa joie, il t'accorde sa paix. Amen. Ça, c'est la grande responsabilité d'un homme. On va prier. Fermons nos yeux. J'invite à courber la tête. Je vais faire un appel. Je vous demanderai pas de vous lever parce que bon, il y a toutes sortes de gens ici ce matin. Il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans l'église. Il y a des gens que ça fait pas longtemps. Il y a des gens que c'est nouveau. Je veux pas que les gens prennent une décision ou refusent de prendre une décision à cause du regard des autres. Mais c'est vraiment entre vous et le Seigneur ce matin.